Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quel rôle a eu le djihadiste français Fabien Klein dans les attaques terroristes ces dernières années? Il a été tué cette semaine en Syrie. Nous rappellerons son parcours et nous nous interrogerons sur l'intérêt de sa mort pour les autorités françaises.
Et puis nous vous expliquerons ensuite sur quelle base a été conclu un accord entre l'Espagne et le Maroc. Madrid pourra désormais débarquer des migrants secourus en mer sur les terres marocaines.
Ces propos controversés sur la PMA et l'islam ne l'auront fait que tanguer. La députée Agnès Thil n'est finalement pas exclue de La République En Marche, le parti se préserve, vous le comprendrez.
Et puis nous nous intéresserons à la numérisation des cahiers de doléances remplis par les Français dans le cadre du grand débat national. Ils sont envoyés à partir d'aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France.
En ce vendredi, les jeunes sont encore en grève pour le climat. La jeune militante suédoise Greta Thunberg est à Paris aujourd'hui. Dans son billet politique, Frédéric Seil se demandera pourquoi la mobilisation ne prend pas en France. Il a fallu recueillir des informations pendant des mois, traquer ces djihadistes grâce à des drones, des téléphones portables, des agents infiltrés, des habitants rescapés, coopérer aussi et surtout entre différents pays de la coalition internationale pour aboutir donc à cette information diffusée hier. Le djihadiste français Fabien Klein, 41 ans, est mort. Son frère Jean-Michel Klein, 38 ans, est grièvement blessé. Ils se trouvaient tous les deux en Syrie, dans la région de Baghouz, dernière poche du groupe État islamique, acculé ces dernières semaines par la coalition. Les deux frères avaient notamment posé leur voix sur la revendication de Daesh après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Nadine Ribet est la mère de Valentin, assassiné au Bataclan, membre de l'association Fraternité et Vérité. Elle regrette qu'une partie de la vérité, justement, ne s'envole avec les frères Klein.
Moi, ça m'a fait un choc parce que l'un ne sera pas traduit en justice, ne sera pas interrogé et on n'aura pas d'explication sur son rôle joué dans les attentats du 13 novembre 2015. C'est peut-être une partie de la vérité qui s'éloigne et que nous n'aurons pas au moment du procès. Et c'est très douloureux, c'est cruel, quoi. Voilà, on aurait voulu en savoir plus. Quel était le rôle exact des frères Klein? Ils n'allaient peut-être pas se mettre à faire des confidences et à nous révéler des secrets, mais vous savez, si on ne croit pas, si on n'espère pas, on a du mal à vivre.
Alors, on connaît déjà dans les grandes lignes le parcours des frères Klein, Fabien et Jean-Michel Klein. Ils ont traversé l'histoire du djihadisme en France et on les retrouve, Florence Thurme, dans plusieurs dossiers judiciaires.
Le nom des frères Klein apparaît pour la première fois dans les années 2000 dans l'affaire de la filière d'Artigat, ce village de l'Ariège où plusieurs futurs terroristes, dont Mohamed Merah, gravitent autour d'Olivier Corel, surnommé l'émir blanc. En 2009, Fabien Klein est condamné à 5 ans de prison dans le procès de la filière, aux côtés de Thomas Barnoin, un autre vétéran du djihad actuellement détenu par les forces kurdes en Syrie. 2009, c'est aussi l'année de l'attentat du Caire où Cécile Vanier, une jeune Française de 17 ans, va trouver la mort. Et le nom des frères Klein, tout comme un projet d'attentat contre le Bataclan, s'inscrit dans ce dossier qui va toutefois se conclure par un non-lieu. En 2012, Fabien Klein a purgé sa peine. Il s'installe à Alençon, puis disparaît 3 ans plus tard pour rejoindre son frère Jean-Michel en Syrie. Sur place, tous deux grimpent les échelons de la hiérarchie du groupe État islamique, très actif en termes de propagande et de recrutement. On retrouve encore le nom de Fabien Klein dans le projet d'attentat contre une église de Villejuif où une jeune femme est tuée en avril 2015 et également dans l'enquête sur l'assassinat de 2 policiers à Magnanville en juin 2016. Avec son frère Jean-Michel, il reste les voix de la revendication des attentats de 2015, objet depuis juillet d'un mandat d'arrêt international, et sa voix résonne encore le 28 décembre dernier dans un message diffusé par la radio du groupe État islamique où il appelle à la rébellion et exhorte à commettre de nouveaux attentats en France.
Fabien Klein mort donc, ciblé par un drone de la coalition en Syrie contre le groupe État islamique. Et pour le politologue Hassiem El-Difraoui, spécialiste du monde arabe et du djihadisme, cette frappe arrange bien l'État français.
Ça évite l'épineuse question des rapatriements de djihadistes qui se pose aujourd'hui plus que jamais avec des dizaines de jeunes djihadistes européens aux mains de forces kurdes qui veulent maintenant qu'ils soient rapatriés en Europe et jugés en Europe. Imaginez le spectacle d'un procès et le coût d'un procès des frères Klein en France. Donc, avec cette frappe ciblée, s'il se révèle que c'était réellement une frappe ciblée, ça évite au gouvernement français un casse-tête d'une ampleur inimaginable. Et ensuite, une fois condamné, le frère Klein risquait de devenir des légendes djihadistes ou des leaders charismatiques dans une prison française. Donc, si il se révèle que les deux sont morts ou hors état de nuisance, c'est un grand soulagement pour les forces de sécurité françaises et pour l'État français d'une manière plus générale.
Le politologue Assiem El Difraoui, qui a notamment publié un Que sais-je sur le djihadisme, si de nombreuses sources confirment la mort de Fabien Klein, la ministre française des Armées, Florence Parly, se montre, elle, prudente ce matin. La Syrie encore et le groupe État islamique. Il a revendiqué hier un attentat à la voiture piégée dans l'est du pays, près d'une base militaire de l'Alliance arabo-kurde. 20 personnes au moins sont mortes. Par ailleurs, des soldats américains resteront en Syrie, même après le retrait des troupes. La Maison-Blanche parle de 200 soldats pour un certain nombre de temps. En revanche, il n'est pas encore question d'envoyer une force militaire américaine au Venezuela. D'ailleurs, le voisin brésilien estime que cela n'aurait aucun sens. Alors que Nicolas Maduro annonce, lui, la fermeture de la frontière avec le Brésil, il menace de faire pareil près de la Colombie. Le président vénézuélien en exercice refuse qu'entre sur le territoire une aide humanitaire. L'opposant dans le pays, Juan Guaido, lui, est toujours en route pour la frontière colombienne, accompagné d'environ 80 députés de son camp. Le cortège avance, mais difficilement, Benjamin Delisle.
Dès le départ, l'armée a tenté de ralentir la très médiatique caravane des députés de l'Assemblée nationale. Les militaires ont bloqué une avenue de la capitale pour empêcher le convoi de partir à l'heure, le but étant de les retarder un maximum pour les empêcher d'arriver le soir même à la frontière. La caravane a ensuite été arrêtée de nombreuses fois sur la route lors de contrôles militaires et l'un d'eux a failli mal tourner. En plein direct pour la chaîne VPI, un chauffeur interviewé s'interrompt lorsqu'il prend conscience que les militaires s'approchent de son camion. Le journaliste reprend l'antenne et décrit la scène.
Les fonctionnaires de la garde nationale sont armés de couteaux. Ils essaient de crever les pneus du camion.
D'autres tentent de confisquer les véhicules. Les esprits s'échauffent et les soldats chargent les députés en leur lançant des gaz lacrymogènes. La députée Mariana Magallanes s'emporte à l'antenne.
Je ne veux pas croire que notre garde nationale en soit réduite à faire ça. C'est une honte, vous l'aurez sur la conscience. Notre travail, nous le faisons aussi pour vous.
Finalement, les députés arrivent à forcer le barrage et à reprendre la route. Mais ce genre de blocage se répète plusieurs fois et les retarde considérablement. Pas sûr que le convoi arrive à la frontière à 10h ce vendredi pour le début du concert et la mobilisation pour faire entrer l'aide humanitaire.
Un concert effectivement pour demander l'entrée de cette aide au Venezuela. Un autre concert est organisé ce vendredi aussi, là pour dénoncer au contraire une agression des États-Unis. L'Espagne a conclu un accord avec le Maroc pour ne pas accueillir tous les migrants sauvés en mer Méditerranée, mais pour en débarquer certains dans des ports marocains. Madrid vient de convaincre l'Union européenne de débourser 140 millions d'euros pour aider Rabat justement à faire face aux flux migratoires à ses frontières. C'est notamment autour des questions d'immigration que se sont querellés la France et l'Italie ces derniers mois. Une crise diplomatique qui a conduit, on s'en souvient, début février, à ce que l'ambassadeur français quitte Rome. Il y est retourné la semaine dernière, mais les raisons du désamour entre France et Italie sont profondes et elles persistent. Nous nous sommes d'ailleurs interrogés sur les relations qu'entretiennent les deux pays et les habitants de ces deux pays. C'est un reportage de Louise Baudet qui sera diffusé ce soir à partir de 17h sur France Culture. Louise a recueilli de nombreux témoignages. Voici un florilège.
Pourquoi en Europe on devrait être traité différemment des autres? Ils nous critiquent en permanence. C'est comme avec les embarcations, là, les gens qui arrivent sur les bateaux. Pardon, mais pour quel motif on devrait tous les accueillir? On ne peut pas dire à Salvini qu'il est raciste ou je ne sais quoi, parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous, on a toujours assisté les migrants de la meilleure façon possible.
Il y a une campagne électorale très forte avec la Lega, qui, par la bouche de Matteo Salvini, se faisait le champion d'un modèle anti-français, anti-Macron. Ça peut devenir une forme de racisme ou de xénophobie anti-française.
Il y a beaucoup d'injustices qui sont commises sur la frontière de Montgenèvre, sûrement. Beaucoup de jeunes qui ont des papiers qui sont modifiés, qui n'ont pas de droit à interprète, qui sont refoulés sans la période d'attente qu'ils devraient avoir.
Il faut rappeler que les Français n'ont pas pris la Joconde. C'est Léonard qui n'a jamais voulu s'en séparer et qui l'a lui-même apporté en France.
Nous, notre stéréotype, c'est les Français sont stronzi, arrogants, impétueux, ils ont la puzza sotto il naso, c'est-à-dire on a toujours l'air d'être un peu dégoûté, quoi, on est un peu précieux.
L'ambasciatore, cili lili, cili le.
L'ambassadeur est arrivé. France-Italie, nous nous sommes tant aimés. C'est un reportage de Louise Baudet, réalisé grâce à Jean-François Braun, à écouter à partir de 17h ce soir.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La députée de l'Oise, Agnès Thil, n'a pas été exclue de La République En Marche.
Elle a reçu une simple mise en garde pour ses propos sur l'islam et contre la procréation médicalement assistée. Le mois dernier, la députée de la majorité avait notamment estimé que l'absence de genre dans le mot « parent » favorise l'éclosion d'écoles coraniques, ce sont ses mots. Auditionnée hier par la commission des conflits du parti La République En Marche, elle a donc bénéficié d'une indulgence, car le parti ne pouvait peut-être pas vraiment se permettre d'exclure un parlementaire de plus, Stéphane Robert.
La République En Marche a déjà connu plusieurs défections de députés à l'Assemblée. Le premier à s'être rebellé a été Jean-Michel Clément, élu dans la Vienne. Au printemps 2018, il avait voté contre la loi Asile et Immigration, ce qui avait très rapidement entraîné son éviction. Ensuite, en septembre dernier, c'est Frédéric Dumas qui avait jeté l'éponge pour rejoindre les rangs de son ancien parti, l'UDI. Les fondamentaux du macronisme ont été oubliés, s'était-elle alors justifiée. On laisse le pouvoir à des technocrates hors sol qui prennent des décisions sur la base de considérations budgétaires. Il n'y a pas d'ambition, pas de sens, et elle s'en était allée. Un peu plus tard, en décembre, un autre député marcheur s'était insurgé. Sébastien Nadeau, élu de la Haute-Garonne, il avait voté contre le projet de loi de finances 2019. Depuis, le député des Français de l'étranger, Joachim Sonforget, est parti lui aussi à la suite d'un dérapage sur Twitter. Le député proche de Nicolas Hulot, Mathieu Orphelin, a également quitté le groupe En Marche à l'Assemblée pour cause de divergence sur la politique de l'exécutif en matière d'environnement. Et surtout, le vote de la loi anti-casseurs le 6 février dernier a montré, avec l'abstention d'une cinquantaine de députés marcheurs, que beaucoup se posent des questions sur le projet politique, sur le sens de leur engagement et sur ce qu'ils feront à l'avenir, en particulier si Emmanuel Macron décide de réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Le doute est manifestement croissant à l'Assemblée, chez les députés et à La République En Marche, qui au fil des semaines qui passent, voit se réduire la possibilité de sanctionner les récalcitrants.
Bercy cherche déjà un autre repreneur pour la scierie d'Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord. Le plan de reprise proposé par Altifort avait pourtant été validé en décembre dernier, mais le groupe franco-belge n'a finalement pas obtenu les financements nécessaires. 281 salariés travaillent sur le site. Fin des cahiers de doléances dans les mairies un peu partout en France. Aujourd'hui, les 10 500 cahiers vont être envoyés aux préfectures qui vont ensuite les transmettre à la Bibliothèque nationale de France. C'est elle qui est chargée de numériser le contenu des cahiers et il y a du travail, Roveo Man Maastricht.
Quasiment un demi-million de pages format A4 vont être numérisées par la BNF. Il s'agit de passer du format papier au numérique pour en extraire l'information le plus rapidement possible. En ce moment, le personnel de la BNF travaille tambour battant. Ils n'ont qu'un mois, jusqu'à la mi-mars, pour numériser l'intégralité des carnets, des courriers ou des comptes de réunion adressés au président de la République. Ça n'effraie pas Arnaud Beaufort, le directeur du numérique à la BNF.
C'est une gageure, mais ce n'est pas infaisable, car la BNF a l'habitude des grands volumes. Nous dématérialisons chaque année 17 millions de pages de livres. Nous sommes à peu près dans un même ordre de grandeur. Nous avons accepté bien volontiers de prêter main forte au ministre, sachant que nous pouvions le faire.
Une fois toutes les pages au format numérique, c'est à un autre prestataire, le cabinet d'expertise Roland Berger, que reviendra la tâche de traiter, dans le fond, les données collectées. Un processus compliqué pour Laurent Bénarousse, directeur associé senior au sein du cabinet Laurent Berger.
Qu'on va identifier, c'est des mots-clés qui vont avoir une certaine proximité les uns avec les autres, des mots-clés insérés dans des phrases qui vont nous permettre d'identifier si c'est une proposition ou un constat, donc d'identifier des clusters d'opinion. Elles vont donner lieu à une restitution sous forme d'arbres, donc c'est un peu technique en fait, hein, d'arbres qui vont montrer les mots-clés qui ont été utilisés et elles donneront aussi lieu évidemment à une synthèse que l'on préparera.
Après numérisation et extraction des données, les carnets de doléances iront reposer dans leurs archives départementales.
Notez que le grand débat sur Internet, lui, se clôt le 15 mars prochain. Le grand débat, justement, il se tient aussi chez les Français de l'étranger, en Tunisie notamment, où la communauté française représente 30 000 personnes. Ils ont été nombreux à participer à la première soirée de débat organisée dans la capitale Tunis. Suite et fin de notre feuilleton sur les débats nationaux cette semaine, c'est un reportage de Maureen Mercier.
Une petite centaine de personnes dans la salle, bienvenue dans l'un des hôtels les plus chics de la capitale. Les brochings sont travaillés, les costumes ajustés. En arrière-fond, l'appel à la prière. Première intervention,
Bonjour Alexandre, je trouve anormal de payer les obsèques des députés, hein, 18 000 euros.
Les autres enchaînent.
Je suis expatrié depuis 30 ans. Je crois que sur les fonctionnaires, on devrait se pencher un peu plus. Je crois que moi, je suis dans le secteur privé depuis 30 ans, je peux vous dire, le nombre de réorganisations qu'on fait dans les entreprises montre qu'elles sont performantes avec moins d'individus.
Derrière moi, une certaine Martha qui ne trouve pas le courage de s'exprimer.
Je suis trop timide.
Des revendications, elle en a. S'emparer du micro, ça, elle n'ose pas. Vous auriez voulu dire quoi ?
Enlever les aides sociales et ne pas rendre les gens assistés, qui bougent et qui travaillent.
Le dinar continue de s'effondrer. Les expatriés en bénéficient. Les préoccupations ici, ça n'est donc pas de savoir comment boucler les fins de mois, mais les taxes scolaires.
Je suis une maman célibataire de deux enfants, scolarisée ici à l'école française. Et donc j'ai la chance de bien gagner ma vie. Mais je dois avouer quand même que chaque trimestre, je débourse dans les 1500 euros. Je pourrais rentrer chez moi, avoir l'école gratuite et ne pas être obligée de travailler autant. Non seulement les prix deviennent exorbitants, et en plus de ça, on a de plus en plus de professeurs des locaux.
Après deux heures de débat, on retrouve Martha Bilan. Est-ce que participer au grand débat national ici en Tunisie, est-ce que cela peut servir ?
C'est juste pour nous donner l'illusion qu'on va être entendu. Mais à mon avis, pas du tout.
Vous allez suivre les débats à venir ici ?
Ah oui, je serai.
Même si vous pensez que ça sert à rien ?
Oui. Ne serait-ce que pour avoir une idée de ce qui se passe et comment les gens pensent. Ça me fait du bien.
C'est des sortes de ronds-points, mais dans des salons, finalement.
Exactement.
Au total, 5 débats au moins auront lieu ici en Tunisie.
Maureen Mercier depuis Tunis. Avant cela, nous étions cette semaine à Sèvres, Amiens, Toulouse, Erquy. Des reportages au cœur des débats locaux à retrouver en images et en son sur franceculture.fr. Le temps s'annonce toujours ensoleillé. Ce vendredi, malgré quelques grisailles matinales au nord de la Loire, comptez 5 degrés à Paris ce matin, 8 à Strasbourg, Rennes, Amiens, 10 degrés à Bordeaux et à Lyon, 16 degrés déjà ce matin à Perpignan. Idem pour ce week-end.